le bistrotier, il a pas que ça à faire. Coller des timbres, ça demande de la salive. Donc il alterne, il va servir des verres et il revient s'occuper des missiles.
Eh bien, au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire. Radio Libertaire, c'est la radio de la Fédération anarchiste et Urbi comme Orbi, sans publicité ni sponsor. Alors, pour vos cartes de soutien, vos cartes d'auditeurs, une seule adresse, bah, Librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement. On est bien sûr Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, y compris celle de Louis Ferdinand Céline, c'est pas mal, hein, voilà. On remercie bien sûr Monique à la technique, elle était à la cano encore hier avec son professeur de surf, elle est revenue spécialement pour l'émission, c'est quand même gentil, hein. Voilà, salut Serge, je sais que tu te tais, c'est très très bien, merci, merci, très bien, très bien, très bien. Patrick Le Petit, voyage au bout de l'abject, Louis Ferdinand Céline, antisémite et anti-maçon, voilà, c'est pas publié.
Non, pas encore.
Pas encore publié, c'est à l'état de... de manuscrits, mais c'est disponible. Alors, on va raconter l'histoire un peu. Je savais que c'était sous dans les fourneaux. On s'est rencontrés il y a quelques mois. Je t'ai dit, tu viens, on va faire l'émission. On a lancé donc ton nom, le titre de l'émission sur la liste. Et hop, ça a provoqué des réactions. Ça t'a surpris les réactions ou pas sur le sujet Céline?
Non, parce que Céline, de toute façon, c'est un sujet sensible, et Céline, ça, c'est clivant. C'est totalement clivant, parce qu'il y a les fanatiques de Céline, mais même dans les critiques qui parlent de Céline, il y a les fanatiques de Céline, et puis il y a les adversaires farouches de Céline. Généralement, les fanatiques de Céline, c'est « Ah oui, mais quel écrivain ?» et les adversaires farouches de Céline, parmi lesquels je m'inscris maintenant, c'est les gens qui disent « Oui, mais les pamphlets, c'est un quart de l'œuvre de Céline, un quart de tout ce que Céline a écrit, et quand même, on peut pas passer ça sous silence. »
Accidentelle du tout, c'est un quart de l'œuvre. C'est-à-dire que ça représente quand même
900 pages.
900 pages, voilà, c'est quand même quelque chose de pas mal. Ouais. Alors, donc, on s'est rencontrés, puis moi j'ai eu une petite aventure comme ça, c'était lorsqu'il y a eu la Nuit debout à République. Mon génial cerveau avait une perspective politique. Je me suis dit, mais pourquoi les gens d'extrême droite ne vont pas aller investir ces jeunes gens qui sont à Nuit debout? Je me suis retrouvé avec un tract entre les mains et ça sentait pas bon. Ça sentait l'attaque juive via la Palestine, ça me rappelait quelque chose. Voilà. Et effectivement, ça sentait Alain Soral, avec un ton qui était très sélénien. Et je me suis dit, on va faire une émission quand même pour remettre les pendules à l'heure par rapport à certaines choses.
Ouais. Ah oui, oui. Par rapport à Céline, oui, il faut remettre les pendules à l'heure, absolument, c'est indispensable. Je crois que c'est une œuvre de salubrité publique.
Oui, bien sûr. Alors, avant qu'on commence, tu vois, nous sommes en plein dans le sujet, j'ai un petit article du Canard Enchaîné, là, qui fait assez peur. Une des professeurs de langue du prestigieux lycée parisien Janson de Sailly a demandé à ses élèves de Cagnes de la rejoindre sur Facebook. Une vraie chance, car ils y ont découvert un enseignement un peu spécial. Le 10 mars, par exemple, après avoir dénoncé le lobby juif américain qui soutient cette saleté d'Hillary, le prof fustige les bouffons français qui leur obéissent, et en particulier un certain François Hollande, ce juif qui a profité de son appartenance à la communauté pour monter en politique et se renie maintenant en se prêtant un père catholique sur Wikipédia. Hollande est juif et le nie, ça va commencer à rétro-pédaler de partout maintenant que la gamelle est moins bonne du côté de la juiverie. C'est un ton Céline, hein,
voilà. Oui, c'est les années 30.
Même si on se fout d'Hillary, même si on se fout là. Et il y a surtout une phrase, quasiment une phrase qu'on retrouve dans ton essai. Hein. Ce n'est qu'un hors-d'œuvre, car on trouve aussi cette affirmation hautement comique, la Shoah a été prévu et organisé par les Juifs.
Ah bah évidemment, c'est comme le World Trade Center, ça n'a jamais existé, c'est bien connu.
Et c'est ce que dit Céline, à un moment, il dit que les agents de la Gestapo, tu as la phrase par cœur, non?
Les agents de la Gestapo, à propos des agents de la Gestapo, il dit que tous les agents de la Gestapo étaient juifs ou demi-juifs.
Voilà.
C'est exactement ce qu'il dit.
Et tu as vu que c'est le même ton.
Ah, c'est le même ton.
Le même ton, la même phrase, quasiment du copier-coller.
Oui. Bon, de toute façon, dans ce domaine-là, je crois que Céline est complètement... Il est quand même imbattable, parce que qu'il en raconte des extraordinaires. Hein. Je veux dire, sur le cinéma, par exemple, quand il raconte que... sur la littérature, il est extraordinaire. Outre le fait qu'il partage la vie de Léon Daudet, qui est, à propos de Proust, qui est dont le langage est...
Philo-youtre.
Mais en plus, alors, Montaigne est juif, Racine est juif, et puis ça se voit... D'ailleurs, si on joue Racine aux Français et pas, et pas Corneille, c'est parce que Racine est juif. Et il l'affirme, c'est clairement dit, quoi. C'est dans les pamphlets, ça aussi.
Alors, Voyage au bout de l'abject, Louis-Ferdinand Céline, antisémite et anti-maçon. Tout le monde connaît le complot judéo-maçonnique. Il vient de où, ce...
Le complot judéo-maçonnique, enfin, on trouve ça, ça remonte à très très loin, parce que, déjà, plus ou moins, ça doit être dans Barvel, c'est-à-dire ça doit remonter à la fin du XVIIIe siècle. Mais c'est surtout, dans les années 30, Mgr Jouin, qui sera derrière cette histoire-là de complot judéo-maçonnique. C'est lui, essentiellement, qui est derrière ça. Et alors, tout, évidemment, toutes les officines de l'extrême droite de l'époque reprennent le complot judéo-maçonnique. Et alors, là, j'en cite quelques-unes dans ce texte, quelques-uns de ces gens. Il faut savoir quand même que parmi les gens qui, à cette époque-là, sont des amis clairs de Céline, on a un nommé Coston, qu'on retrouve jusqu'à... qu'on retrouve au FN, dans les arrière-cours du Front National de Le Pen, père, jusqu'à une date récente. Et c'est un ami de Céline.
D'ailleurs, petite parenthèse, avant de poursuivre, toutes les relations de Céline pendant la guerre, dès 35, pendant la guerre et après, sont des gens d'extrême droite. Hein. De faire de Céline un anarchiste lorsqu'il correspond avec Doriot, ouvertement, hein, parce qu'il se retrouve avec Nimier, c'est-à-dire les hussards en 56, quand il y a la guerre d'Algérie, etc., etc. C'est vraiment quelqu'un qui a une fréquentation d'extrême droite.
Hein. Ah bah, j'ai un petit texte, que, justement, voilà. En 1942, le 22 août 1942, Fernand de Brinon, qui était général du gouvernement de Vichy pour les territoires occupés, écrit au responsable de la Gestapo de Paris, le général SS Karl Bömmelburg, qui sera Gauleiter de Sigmaringen en 44-45, il lui écrit « Je recommande tout particulièrement votre bon accueil, mon ami Céline, que vous connaissez sûrement de réputation. Il a été en France, bien avant la guerre, un ardent antisémite, et par ses livres le plus utile défenseur du rapprochement entre la France et l'Allemagne nationale-socialiste. » C'est Brinon qui écrit ça au général SS Bömmelburg en 1942. Donc on voit quelles sont les amitiés de Céline. D'ailleurs, il dit clairement « Mon ami Céline, Brinon ». L'ambassadeur de France en France, comme dit je ne sais plus qui, puisqu'il était l'ambassadeur, il était l'ambassadeur de Vichy à Paris.
Laurent, je suppose, c'est ça ?
Oui.
Bien, nous adorons la ponctualité sur Onde de Choc, c'est parfait. On est bien, Patrick Le Petit, vous connaissez, je suppose, c'est pas... Donc, alors, la réponse, je te l'ai dit en antenne, mais on va quand même faire les naïfs, d'accord ? Est-ce qu'on peut être anarchiste ? Et franc-maçon.
Bon, moi je pense que oui. Enfin, notamment, c'est peut-être parfois on peut peut-être trouver quelque chose à redire.
Je te dis pas mon problème. La franc-maçonnerie, t'as quand même quelque chose de transclasse.
Ça, c'est, ce n'est peut-être pas ce que j'aurais utilisé comme argument.
D'accord, vas-y.
Parce que transclasse, justement, il y avait un franc-maçon qui s'appelait Paul Luca, qui était un chanteur franc-maçon belge, qui est mort il y a quelques années, qui faisait, chaque fois qu'il faisait une planche, c'est comme ça qu'on appelle les conférences en maçonnerie, chaque fois qu'il faisait une planche, il disait « Mais où est le concierge dans ma loge ?» sous-entendant par là qu'il y avait pas beaucoup de il jouait beaucoup sur les calembours, mais il sous-entendait qu'il y avait pas beaucoup de représentants, on va dire, de la classe ouvrière dans les loges maçonniques, et il a pas tout à fait tort là-dessus. Mais par contre, quand on regarde par exemple l'article 1er de la Constitution du Grand Orient de France, elle est très largement humaniste et progressiste. Alors, c'est peut-être pas vrai de toutes les obédiences maçonniques, mais pour le Grand Orient de France, c'est vrai à coup sûr, certainement. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, je ne vois pas d'incompatibilité majeure entre anarchisme et franc-maçonnerie. D'accord.
D'ailleurs, on sait que Léo Campion était franc-maçon. Voilà, il y a une très longue liste de francs-maçons. Oui, tout à fait. Bien sûr, mais ça appartient quand même à une époque donnée, fin 19e, début 20e.
Moi, je pense que je connais bien certains du Géo pour être moi-même franc-maçon, donc c'est pas un secret. De toute façon, je le dis assez régulièrement. Je connais bien certaines loges du Géo où il y a des anars revendiqués. Il y a des loges qui sont même plutôt à tendance libertaire. Puisque chaque loge est un... surtout au Grand Orient de France, chaque loge est un... comment dirais-je ? Une unité quasi indépendante. Donc on peut avoir des loges à pensée libertaire.
Alors, est-ce que la culture juive est compatible avec la franc-maçonnerie? Bon, là, je vais te dire pourquoi. Si j'ai un peu compris la franc-maçonnerie, c'est quand même basé sur les Lumières et sur la raison. La culture juive serait bâtie sur la tradition. Le meilleur exemple, c'était quelqu'un comme Walter Benjamin, dès qu'il se rapproche du langage marxiste, et en particulier de Brecht, paf, il est rappelé à l'ordre par Gershon Scholem, qui lui dit non, t'as la tradition par-dessus. C'est-à-dire, est-ce que c'est compatible ou pas?
Alors, il faut voir quand même que en franc-maçonnerie, et c'est ce que ne semble pas savoir ni comprendre quelqu'un comme Louis Ferdinand Céline, il faut quand même voir qu'en franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie est un syncrétisme incroyable. C'est un syncrétisme avant toute chose. Et bien sûr, on va dire le mythe fondateur notamment du grade de maître et même d'un certain nombre de hauts grades de la franc-maçonnerie. Ces mythes fondateurs-là sont des mythes fondateurs juifs. On parle de Salomon, on parle d'Hiram, on parle de la construction du temple de Salomon, c'est complètement, c'est une chose de pure métaphore. Ça n'a pas de... C'est une légende, c'est un discours qui sert à faire avancer certaines idées, notamment par exemple au premier ordre du rite français sur la justice, à faire avancer des idées qui n'ont pas grand-chose à voir avec, l'enseignement, par exemple, de la Kabbale ou de choses de ce genre-là.
Mais dans ton propre cas, Patrick Le Petit, tu es venu à ce micro parce que tu avais commis, je dis bien commis, ouvrir les serruriers. T'as aussi commis surréalisme tout-terrain, c'est ça ?
Parcours sous-terrain.
Parcours sous-terrain, excuse-moi là. Ta thèse par rapport au surréalisme, c'était, on va rapidement, c'était qu'en fin de compte, le surréalisme avait une inspiration occulte, ésotérique, bien plus que matérialiste.
Alors, je crois qu'il ne faut pas... Il y a deux choses qui... Mon point de vue est un point de vue en réaction. En réaction contre le fait qu'on présente toujours le surréalisme comme relevant uniquement de l'avant-garde. Le surréalisme, c'est deux piliers, le marxisme d'un côté et la psychanalyse de l'autre.
Freud.
Ok, ouais. Bon, moi je veux bien, mais il faut quand même voir que le surréalisme, il ne vient pas de nulle part. Et moi, j'ai voulu montrer que le surréalisme... Et je l'ai montré à partir des textes surréalistes, des textes notamment de Breton, mais pas uniquement, des textes de tous les surréalistes qui ont pu me tomber entre les mains. J'ai voulu montrer simplement que par-delà le surréalisme, on a le symbolisme, et qui, on sait ce que Breton pensait de Gustave Moreau, par exemple. Après le symbolisme, il y a le romantisme. On sait qu'ils ont toujours tous eu une passion pour le romantisme, notamment allemand, mais également pour des gens comme Nerval ou des gens comme ça. Et on va plus loin parce qu'on va jusqu'à l'illuminisme du 18e siècle, c'est-à-dire la face sombre des Lumières. Alors, avec des gens comme Martinez de Pacioli.
Je ne sais pas si tu connais Paul Sanda.
Oui, je connais Paul Sanda.
Très
oui.
Bien, très bien. Il pense qu'avec l'ouverture des lettres de Breton, c'est imminent, là, on va avoir des révélations. On va avoir des révélations qu'en fin de compte, le côté ésotérique, ou alors même un autre mot, mystique, est ouvertement déclaré depuis le départ, et qu'on serait beaucoup plus dans un monde proche de Huysmansk, par exemple, que dans Diderot, par exemple, tu vois.
Alors, proche de Huysmansk, je suis pas sûr, surtout que Huysmansk a mal tourné vers la fin et qu'il a tourné chrétien.
Oui, d'accord, ok, d'accord.
Et donc, Huysmansk peut-être pas, mais on peut penser effectivement qu'il va y avoir des choses. Alors, quand les aura-t-on ? J'en sais rien. Parce qu'on vient de, par exemple, on vient de publier les lettres de Breton à Simone Kahn, sa première femme, mais ça nous met dans les années 20. Quand on va commencer à trouver des choses autour de Breton qui peuvent aller dans ce sens d'un intérêt de Breton pour l'ésotérisme, son véritable intérêt pour l'ésotérisme, on le voit, il existe avant la guerre, mais on le voit vraiment poindre à partir de la guerre et après la guerre. C'est dans la dernière partie de sa vie, on va dire le tournant, c'est les années 40, quand il est en Amérique, le vrai tournant. Avant, il y en a aussi, des références à l'ésotérisme, mais c'est à partir des années 40 que ça va vraiment basculer et qu'il va vraiment s'y intéresser d'une manière beaucoup plus marquée. Breton. Donc, il faut attendre l'ouverture de la correspondance de l'après-guerre. Pour le moment, on en est à la correspondance des années 20. On a eu les lettres de Breton et d'Aragon. On a maintenant la correspondance avec Simone Kahn. Combien de temps il va falloir encore attendre pour qu'on ait les lettres de la dernière partie de la vie de Breton, c'est-à-dire des années 40, 50 et 60, ça, je n'en sais rien. Et maintenant, je voudrais être sûr qu'il n'y aura pas non plus trop de censure, on va dire, de ce qui pourrait ne pas aller dans le sens...
D'où ça viendrait, la censure ?
Alors, ça ne peut venir que pour maintenir une certaine idée du surréalisme.
Qui aurait le droit de...
Il y a des gens qui sont aux commandes. Alors, je ne les connais pas, donc je peux pas dire je vais pas me prononcer sur la manière dont ils travaillent parce que je les connais pas. Mais par exemple, c'est Jean-Michel Gouthier pour partie au moins qui est chargé de la publication des lettres et il est très crédible pour faire ça puisqu'il a été proche de Breton effectivement. Maintenant, est-ce qu'il va pas essayer de donner une certaine image? Est-ce qu'il est pas dans le Saint-Paul un petit peu du surréalisme si j'ose me permettre, parce que là quand même c'est un peu fort.
Bon, avant d'en arriver à Céline, c'est quand même le problème du jour. Laurent, est-ce que tu as vu les réactions sur la liste?
Je vous arrête un tout petit... Oui, voilà, on va essayer avec ce micro-là. C'est parti.
Les réactions sur la liste, est-ce que tu les as vues par rapport
Non. Enfin, j'ai vu certaines choses, oui, effectivement. Bon. C'est vrai que Louis Ferdinand Céline est un personnage controversé dans nos milieux. Maintenant, je laisse la parole à Patrick, et puis si je dois réagir, je réagirai dessus. Mais bon, c'est évident que quand on a... Enfin, je te laisse aller de l'avant et dans l'œuvre de Céline. Ouais.
Bon, avant d'écouter un petit morceau de jazz, moi il y a une réaction que tu n'as pas imprimée, Géant. Comme quelqu'un m'a dit, alors le gros cliché, Céline serait un anarchiste de droite. Ce qui me permet moi de dire que anarchiste de droite, c'est toujours un fascisme déguisé, là. Je ne sais pas comment on peut sortir une aberration par là. Tu as quelque chose là?
Alors, je dis effectivement quelque part là-dedans que Céline est pris à tort dès 32 pour ce qu'il est convenu d'appeler un écrivain engagé, tendance populisme d'extrême gauche, alors qu'il semble s'inscrire en fait à ce moment-là dans la lignée des grands anarchistes, comme le montre Céline tirée de Mea Culpa. Je le cite, les privilégiés pour ma part, je n'irai pas, je le jure, m'embuer d'un seul petit œil sur leur vache charogne. Ah, pas d'erreur, délai, basta, pas un remords, pas une larme, pas un soupir, une cédille, c'est donné. C'est l'Angélus. Leur agonie, c'est du miel, une friandise. J'en veux, je m'en proclame tout régalé. Fin de citation de Céline. Mais, et c'est encore lui faire beaucoup d'honneur, ce serait donc un anarchiste à la limite de droite, comme l'histoire en a produit quelques-uns, parce que les anarchistes de gauche croient, eux, en l'homme, en l'avenir, en un progrès matériel et moral, intellectuel et social de l'humanité, celui-là même qui fonde leur combat. Alors que Céline, lui, simple, atrabilaire, révolté, mu de ce fait par ce que Gorky nomme le nihilisme du désespoir, Céline, qui se moquera sans vergogne dans l'école des cadavres de tous nos progrès moraux, sociaux, si douloureusement acquis par l'élite maçonnique de nos philosophes à travers les siècles, pense que l'homme, il est humain à peu près autant que la poule vole, quand elle prend un coup dur dans le pot. Quand une auto la fait valser, elle s'élève bien jusqu'au toit, mais elle repique tout de suite dans la bourbe, rebecter la fiente. C'est sa nature, son ambition. Pour nous, pour la société, c'est exactement du même. On cesse d'être si profond fumier que sur le coup d'une catastrophe. Quand tout se tasse à peu près, le naturel reprend le galop. Ça, c'est du Céline.
Du Céline. On va rajouter, et premier, on va respirer avec un peu de musique. On ne peut pas être libertaire en dénonçant Robert Disnos, par exemple. Hein, alors qu'il est mort comme résistant, c'est pas possible.
Et dans quel propos il le dénonce?
On l'a à peu près en tête, c'est-à-dire que Disnos a écrit un article sur Céline. Céline va le dénoncer quasiment en lui demandant que son profil soit publié, qu'il a un nez légèrement busqué, c'est ça? Si j'ai bien compris, tu l'as passage,
j'ai le passage, oui. Voilà. Monsieur Disnos mène, il me semble, campagne philo-youtre, et votre journal, puisque c'est une lettre à un journal, inlassablement depuis juin. Le moment doit être venu de brandir l'oriflamme. Tout est propice. Que s'engage-t-il ? S'empêtre-t-il dans ce laborieux charabia ? Mieux encore, que ne publie-t-il, M. Desnos, sa photo grandeur nature, face et profil à la fin de tous les articles ? La nature signe ses œuvres. Desnos, cela ne veut rien dire.
Voilà, est-ce qu'on peut être libertaire, anarchiste avec de tels propos ?
Ça, c'est du Céline.
Moi, c'est le terme d'anarchiste de droite qui me fait frissonner. Ah, je sais pas trop d'où vient le terme d'anarchiste.
Alors, c'est
de
une
droite,
longue tradition, c'est-à-dire c'est une longue tradition. Oui, pardon. Oui.
Oui, non, mais je t'en prie.
Non, c'est-à-dire que parce que l'anti-parlementarisme, par exemple, l'anti-communisme, on est dans un refus, c'est-à-dire. Mais le problème, ce sont par exemple, on va prendre l'exemple de ce qui s'est passé avec ce qu'on appelle les hussards. Oui. Anarchiste de droite, petite parenthèse qui publiait la Table Ronde en 56 pendant la guerre d'Algérie. Léo Ferré publie ses Poètes vos papiers, la Table Ronde aussi. Fermons la parenthèse, nul n'est parfait, c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais l'anarchiste de droite, c'est quasiment un fasciste
bien sûr. Mais on retrouve la confusion aujourd'hui entre les libertaires, les libertariens, etc.
En plus, les anarchistes de droite ne renient pas la religion, parce que des gens comme Nimier, des gens comme Blondin, les hussards, sont des gens qui sont catholiques. Hein.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Ou pire, quelquefois païens.
Païens. Mais on y va. On a une petite nouvelle d'Éric Tessier qui me dit bonjour quand même. Bonjour Éric. Il m'écrit: un libertaire, une libertaire, peuvent-elles cautionner ça ? Les juifs, racialement, sont des monstres, des hybrides, des loupés, tiraillés, qui doivent disparaître. dans l'élevage humain. Ce ne sont, tout bluff à part, que des bâtards gangréneux, ravageurs, pourrisseurs. Le juif n'a jamais été persécuté par les Ariens. Il s'est persécuté lui-même. Il le damnait des tiraillements de sa viande d'hybride. Après, ça c'est... Après, je me sens très ami d'Hitler, très ami de tous les Allemands. Je trouve que ce sont des frères, qu'ils ont bien raison d'être racistes. Ça me ferait énormément de peine si jamais ils étaient battus. Je trouve que nos vrais ennemis, c'est les juifs et les francs-maçons. Que la guerre, c'est la guerre des juifs et des francs-maçons. Que ce n'est pas du tout la nôtre. Que c'est un crime qu'on nous oblige à porter les armes contre des personnages d'autre race qui ne nous demandent rien. Que c'est juste pour faire plaisir aux détruiseurs du ghetto. Que c'est la dégringolade au dernier cran de la dégueulasserie. On en a encore eu dans zone sud, zone peuplée de bâtards méditerranéens, dégénérés, de nervis, fébriles, gâteux, parasites arabiques que la France aurait eu tout intérêt à jeter par-dessus bord. Au-dessus de la Loire, rien que pourriture, feignantrice, infect métissage négrifié. Il aime beaucoup le terme négrifié d'ailleurs, on peut se demander aussi. Hein. Et sur les femmes, alors là, sur les femmes, Monique, attention, hein. La femme est une très très chienne née. La femme, surtout la française, raffole des crépus, des abyssins. Ils ont des bites surprenante. Comment ? Bon, pardon. Oui. Bon, alors voilà.
Il y a quelque chose. Moi, ces citations-là, elles sont dans mon texte, hein. Pour la plupart. Pas les bites surprenantes.
Comment ? Tu as fait une censure à ton tour ?
Il faudra que je le rajoute parce que celle-là, je n'avais pas noté. Mais j'en ai trouvé des trucs. Parce que moi, dans le domaine des antis chez Céline, on ne parle pas de sa misogynie. Et la misogynie de Céline, par contre, elle est apparente dès le voyage. Pas l'antisémitisme, mais la misogynie apparente des loyers. Mais j'ai un petit passage tout à fait intéressant qui vient de Bagatelle, parce que beaucoup de ces citations viennent de Bagatelle pour un massacre, 1936, je rappelle, 37, je rappelle. Donc il dit « Moi, je voudrais bien faire une alliance avec Hitler. Pourquoi pas ? Il n'a rien contre les Bretons, contre les Flamands, rien du tout. Il a dit seulement sur les Juifs. Il les aime pas, les Juifs. Moi non plus. J'aime pas les nègres hors de chez eux. C'est tout. » Bagatelle pour un massacre, page 317. Également, il dit encore « Je le dis tout franc, comme je le pense, je préférerais 12 Hitler plutôt qu'un Blum omnipotent. » Bagatelle pour un massacre, page 313. Voilà, bon, c'est quand même clair. Quoi.
Enfin un libertaire.
S'il faut des veaux dans l'aventure, qu'on saigne les juifs, c'est mon avis. Si je les paume avec leur charade en train de me pousser sur les lignes, je les buterai tous et sans faire rire jusqu'au dernier. C'est la réciproque de l'homme. Et ça, il paraît que c'est de l'humour. Enfin, c'est ce que dit Solers, en tout cas.
Et non, c'est Gide.
Gide a dit, il est ma boule, il est fou. Soit il est fou, soit il n'est pas sérieux ou quelque chose comme ça, mais enfin...
Il parle de comique.
Non, c'est Solers qui parle du comique. Moi, j'arrive pas à trouver ça comique.
Ah, il est au premier degré, Solers, quand il parle de comique.
Ah oui, il est au premier degré. Il
faut dire aussi que Solers est quand même un caméléon. Hein. Il a quand même été tel quel, il a quand même été tout ça, il a quand même été baladurien, les choses
pas très crédibles. Mais surtout, c'est ceux que j'appelle les réhabilitateurs. Il est dans le même wagon que Nimier, justement, que Monnier, dont je parlais tout à l'heure, il est réhabilitateur.
Alors Patrick Le Petit, toi tu y vas, là-dessus nous sommes d'accord, on ne va pas faire les béni-boui tous les deux, c'est bien dommage. Pour moi, Céline est un collabo, pour moi, tu finis ton texte avec la phrase idéologue nazi. Hein. N'empêche qu'en 1932, il publie Le Voyage au bout de la nuit, bon, bah, c'est quand même quelque chose. Voilà.
Il publie Le Voyage au bout de la nuit. Et effectivement, alors c'est tout à fait étonnant, parce que, évidemment, après avoir lu les pamphlets, j'ai repris tout le reste de l'œuvre pour voir un petit peu si, et notamment ce qu'il avait écrit avant, pour voir s'il y avait déjà des germes, entre guillemets, de cet antisémitisme qu'on trouve dans les pamphlets. Pas dans Le Voyage, quasiment rien. Très peu de choses dans Mort à Crédit. Par contre, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il publie en 33 une pièce de théâtre qui s'appelle L'Église, qui a été écrite en 25, 26 ou 26, 27, je ne sais plus exactement, il faudrait que je vérifie là-dedans. L'Église, et dans L'Église, ça par contre, ça y est. Les germes y sont déjà, y compris les germes d'antisémitisme. Il a passé ça sous silence au moment de... Et c'est justement pour ça que Le Voyage... Ouais. Et c'est justement pour ça qu'on le présente quelquefois comme quelqu'un de gauche, parce que quand on lit que Le Voyage au bout de la nuit, eh bien, on a effectivement, on a de l'anticapitalisme, on a de l'antimilitarisme,
l'anticolonialisme.
On a de l'anticolonialisme, on a toutes ces choses-là et qui sont moi ça m'a, quand j'avais 20 ans que j'ai lu Céline pour la première fois, ça m'a transporté quoi. J'ai dit mince, voilà un mec qui dénonce effectivement tout ce qu'il y a à dénoncer, c'est formidable. Après quand on découvre les pamphlets après, on tombe de haut quoi.
D'accord. Il publie ça en 32. N'empêche que l'Europe en 32 commence à sérieusement bouger. Hein, on va récapituler quand même, ça vient de, même avant Drummond, c'est 1886, c'est la frange juive. On a quand même eu l'affaire Dreyfus, il faut quand même prendre position pour l'affaire Dreyfus. On a eu Hitler, ça doit être 28, non ? Mein Kampf, non ?
C'est 25,
Mein Kampf. 34, ils avaient demandé 34, donc on est vraiment être antisémite à l'époque.
Mussolini.
Il y a Mussolini, bien sûr. C'est pas un truc d'avant-garde. On est vraiment dans l'air du temps.
Ah, complètement. On est dans l'air du temps. C'est, je veux dire, être antisémite, c'est à la limite ce qui est louable à cette époque-là, c'est de ne pas l'être antisémite. C'est parce que c'est vraiment sortir des sentiers battus. Il faut voir quand même. Bon, je sais bien qu'il est déjà un peu atteint, mais même chez Artaud, on a des traces d'antisémitisme.
On a deux lettres. Alors ça, il faut pas le dire, mais on a deux lettres d'Artaud à Laval.
Oui. Donc, là, il était fou.
Il est à Rodez. Non, mais là, c'est autre chose. Il est à Rodez.
Mais il y en a avant.
Il est atteint. Il est atteint.
Il y a quelques petites choses avant qui sont. Mais qui sont dans l'air du temps, complètement. C'est pas du tout être original que d'être antisémite. Mais par contre, être avec une telle violence, si, c'est quand même original.
Quand tu dis avant, c'est, on aurait pu espérer, entre guillemets, hein, une correction. C'est-à-dire, bon, à un moment donné, il fait une connerie, il se corrige. Mais il persiste et signe.
Ah, complètement.
C'est-à-dire qu'il faut dire que l'école des cadavres, tu me corriges, hein, l'école des cadavres, c'est 37.
Non, c'est non, la Bagatelle pour Bagatelle, Massa, c'est 37, l'école des cadavres 38
et, 41,
et les Beaudras 41.
Et voilà. Mais n'empêche qu'en 41, on connaît les lois juives sont tombées. Vous les avez là ? Non, voilà.
Alors, j'ai surtout ce qu'il écrit à ce moment-là, quoi. Je veux dire, ce qu'il écrit en 41, c'est tout à fait. Alors d'abord en 41, quand il écrit les Beaudras, les statuts anti-juifs de Pétain sont sortis depuis octobre 40. Pour Pétain et juif, quiconque a trois ancêtres juifs dans son
pédigré.
Dans son pédigré, si on peut dire. Ouais. Pour Céline, lui, dit dans les Beaudras, tout homme qui compte parmi ses grands-parents, un juif, un seul.
C'est un libertaire.
Voilà, par exemple. C'est page 115 dans les Beaudras, hein, pour les amateurs de précision. Et il est également très, très, très virulent sur. En 41, donc, en 41, il écrit. Dans les Beaudras encore, page 44-45. Alors que donc le statut des juifs, les interdictions professionnelles ont été promulguées en octobre 40, que ça va encore être durci, que les premiers convois vont bientôt partir pour l'Est, hein, que les premières rafles sont organisées au printemps 41 quand même, eh bien il écrit en exergue un des chapitres de son bouquin, donc les Beaudras, la présence des Allemands les vexe. Et la présence des juifs alors ? Point d'interrogation. Ça, c'est l'exergue. Et puis après, il écrit un peu plus loin, c'est le développement. Plus de juifs que jamais dans les rues, plus de juifs que jamais dans la presse, plus de juifs que jamais au barreau, plus de juifs que jamais en Sorbonne, plus de juifs que jamais en médecine, plus de juifs que jamais au théâtre, à l'opéra, aux Français, dans l'industrie, dans les banques. Paris, la France, plus que jamais livrée aux maçons et aux juifs, plus insolent que jamais, plus de loges que jamais en coulisses et plus active que jamais. Tout ça plus décidé que jamais à ne céder un pouce de ses fermes, de ses privilèges de traite des blancs par guerre épée jusqu'au dernier soubresaut du dernier paumé d'indigènes. Et les Français sont bien contents, parfaitement d'accord, enthousiastes. Une telle connerie dépasse l'homme. Mais moi, là, je reprends encore une fois. Solers va nous dire que c'est drôle.
Oui,
bon
alors,
sens.
C'est du comique, oui.
tous les bons clichés, Patrick, sur le bon docteur Destouches qui aurait soigné les pauvres Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui étaient médecins, qui ont soigné les pauvres et qui n'ont pas été antisémites pour autant. Le bon cliché, comme quoi ce serait un écrivain génial, il aurait du style, mais alors il faut le sauver à cause de ça. Ça voudrait dire, par extension, qu'un Brasillac, par exemple, qui a tenu un langage égal à celui de Solaire. Je ne sais pas si tu sais que ce qu'il a perdu, c'est la fameuse phrase où il demande que les petits soient séparés des mères et exécutés, hein, Brasillac. Hein. Voilà, donc il y a été. Donc, de surcroît, c'est dans ton texte aussi, Céline fait l'apologie d'un quai de Pelle-Poix et de Je suis partout.
Oui, oui, oui.
Donc on est vraiment dans le monde. Alors, pour venir à ta thèse, hein, et la mienne aussi, c'est ça qui est embêtant, je remets ça bien, c'est un collaborateur de première.
Ah, complètement. Alors, il n'est pas collaborateur officiel, c'est-à-dire qu'il a essayé, hein, il a essayé de prendre la place de Darké Pelle-Poix, hein. Il a essayé de l'avoir, je ne sais plus, il y a un moment, je crois que c'est Valla qui part, il y a un remplaçant au commissariat aux affaires juives, et c'est je crois que c'est Pelle-Poix qui veut l'avoir, et c'est Valla qui l'était avant, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, il y a eu une vacance du poste de commissaire aux affaires juives, et il a posé sa candidature. Il n'a pas été pris, mais il a posé sa candidature. Il va écrire à des responsables SS pour demander qu'on trouve du boulot pour
On va y revenir. Le fameux médecin, le bon médecin. On va y revenir. Mais parmi les obscénités qu'on pourrait de la collaboration et du corporatisme d'écrivain à écrivain, puisqu'on est là, c'est quand même qu'il a demandé qu'on lui libère du papier pour publier. Alors tu racontes ou pas? Vas-y. C'est l'obscénité majeure.
Il a toujours dit, non mais c'est pas moi qui ai réédité les livres. On avait interdit en 1900, c'est vrai qu'en 1938, un de ses livres a été interdit, je crois que c'est Bagatelle qui a été interdit, ou L'école des cadavres a été interdit. Et donc du coup l'éditeur a retiré l'autre livre, le précédent.
Les deux ont été interdits.
Non, il n'y en a qu'un seul qui a été interdit et l'éditeur a retiré les deux de la vente. Okay. Les deux premiers pamphlets. Parce qu'il y avait eu un procès. Et que Céline avait été condamnée pour antisémitisme, pour diffamation en tout cas. Et donc les textes ont été retirés de la vente. Ils ont été réédités par De Noël pendant la guerre. Pourquoi ils ont été réédités par De Noël, le pauvre? Parce qu'il avait perdu de l'argent avec cette histoire de retrait. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'a dit De Noël. Et donc le résultat, c'est que Céline a écrit personnellement à Karl Epting, je crois, qui était un responsable de l'approvisionnement en papier, en lui demandant 15 tonnes de papier pour la réimpression de ses œuvres.
Il y a une question que je me pose. Est-ce qu'on a fait une psychanalyse de Céline a posteriori?
Non, je ne sais pas.
Je crois que ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant, oui. Je pense notamment à ce que tu disais à propos des lettres qu'avait écrit Céline aux autorités allemandes. Il y a aussi les fameuses lettres qu'il a écrites à Gaston Gallimard, où il se plaint toujours. Il a un problème avec le fric, en fait, Céline. Donc, c'est un personnage quand même assez étroit d'esprit.
Il a aussi un problème avec le martyrat, parce que l'indécence qu'il a de se plaindre, justement, après son emprisonnement, alors qu'il emprisonnait pas 6 mois, c'est ça, à peu près?
Il est emprisonné plus longtemps que ça, il est emprisonné 550 jours, ou un peu plus de 550 jours.
Voilà.
C'est pas les camps de concentration, hein, la prison de Copenhague.
Il traîne dès 32 sont les mythes du martyr.
Ah oui, oui.
Mais le martyr, un incompris, le martyr, le maudit, quoi.
Et là, ça, il en joue, oui, complètement. Et il est victime des juifs, déjà, de cette époque-là, l'affaire Ischoc, là, je crois que c'est le dispensaire de Clichy, où il n'est pas pris, où on lui préfère un
médecin juif, non?
Un médecin juif, d'origine juive. Et alors, du coup, c'est le martyr, quoi. Il est la victime d'un complot mondial, quoi, contre Céline. Il est parano, complètement
parano.
Quelque part, hein.
On va s'écouter un peu de musique, et comme quand même j'ai trouvé une petite rupture par rapport à toi sur le sujet, on engage le discours après.
D'accord.
Alexander's ragtime band. Come on in here, come on in here.
Eh bien, sur Radio Liberté, 01 43 71 89 40, avec Patrick Le Petit, Voyage au bout de l'abject, Louis-Ferdinand Céline, antisémite et anti-maçon. Et puis aussi, conseiller ce livre, hein, Patrick, non ?
Tout à fait, Kaminski, tout à fait, Céline en chemise. C'est Kaminski, qui est critiqué par beaucoup de Céliniens, et notamment un monsieur qui s'appelle Pierre Monnier, qui est mort en 96, mais Kaminski, lui, est mort en 36, il est mort en... il a disparu en Espagne, hein, probablement dans les brigades internationales. Donc, on voit dans quel camp était Kaminski. Alors, son livre est une très violente attaque contre Céline, une attaque qui date de 36, qui date d'avant même 36. Hein. Donc, c'est un des premiers à avoir montré le vrai visage de Louis-Ferdinand Céline.
Donc, Patrick Le Petit, pour un homme érudit comme toi, politique, etc., il y a un trou dans ton essai, dont je vais te le dire, je l'ai découvert, j'ai cherché, c'est très bien. D'accord. Le voyage, c'est en 32. Hein, on va prendre 3 ans plus tard, c'est 35, ça c'est pas très malin ce que je raconte. N'empêche, 35, c'est la mort de René Crevel.
Oui.
Pendant tout ce temps-là, où Céline écrit et se place d'un côté, il y a des gens venus des quatre coins de l'Europe, qui se réunissent à Paris le plus souvent, pour aller contre la montée du fascisme.
Oui, oui.
Tu as ce qu'on appelle l'association des artistes et des écrivains révolutionnaires. Oui. Dans cette association, il n'y a pas que des gens qui vont être des gens de pouvoir plus tard. Bon, il y a Malraux qui va devenir ministre, il y a Aragon, on sait ce que c'est. Tu as des gens comme Klossmann qui est...
qui est d'ailleurs un grand ami de Crevel.
Bien sûr, ami de Crevel, il y a ces gens-là. Tu vois aussi Walter Benjamin sur une... Et ça, c'est dommage que tu ne l'as pas signalé. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, pendant tout ce mouvement... tout ce temps où le mouvement se déroule, il est du côté de la collaboration.
Ah oui, complètement. Il n'est jamais dans le camp des progressistes. Il ne s'inscrit même pas dedans. Voilà. Mais pourquoi ? Ça, c'est facile à expliquer. Pourquoi il ne s'inscrit pas dedans ? En 32, il publie le voyage. Et il y a un malentendu tout de suite, parce qu'il y a des gens qui le prennent pour quelqu'un de gauche. Et Triolet et Aragon, justement, vont traduire le voyage, et il va être publié à Moscou. Et il va faire plein de pognon à Moscou. Des roubles non convertibles. Donc, s'il veut profiter de ses roubles, et on disait tout à l'heure qu'il était près de ses sous, il veut profiter du pognon qu'il a gagné en Russie, donc il va y aller en Russie. Il va aller chez Staline. Il va aller chez Staline pour... Et alors, il va revenir...
Il en revient avec un texte, hein, 36.
Il revient avec un texte.
Il est anticommuniste. C'est pour répondre à Laurent rapport aux composantes d'anarchistes de droite. Il est aussi anticommuniste.
C'est le quatrième pamphlet de Céline. Alors, je disais tout à l'heure, les pamphlets antisémites, c'est 900 pages. Et là, on a un petit machin qui fait une quinzaine de pages. C'est tout petit. Ça s'appelle Mea Culpa. Texte de 36. Mais alors, là aussi, il y a des choses qui sont tout à fait intéressantes. L'anticommunisme, on le voit affleurer, mais alors il est brillantissime. C'est, ce qu'il dit n'est pas tout à fait faux, d'ailleurs. Hein. C'est une dénonciation du régime soviétique. Mais je préfère celle de Gide.
Donc, dans ce choix et dans les réactions qu'on a eues, là, est-ce qu'on peut être libertaire et avoir des relations avec Céline, c'est très difficile. Parce qu'il faut quand même faire un choix par rapport à l'histoire. On est soit du côté de Desnos et de Walter Benjamin, et c'est incompatible avec Céline. Voilà.
Tout à fait. Voilà. Oui, je pense que c'est effectivement incompatible avec Céline. Comme je disais tout à l'heure, il était en 32, quand il a écrit Mea Culpa, il s'est mis dans un camp, il s'est placé lui-même directement dans un camp. Il a choisi le camp de la réaction, il a choisi le camp de l'anticorps. Il a choisi le camp de ce qui est déjà l'extrême droite. En 32, enfin, je veux dire, ça, il écrit ça 36. On a déjà eu le février 34. On a déjà la montée. On a déjà eu la scission du PPF de Doriot.
Bien sûr, on réitère. Il est dans l'air du temps.
Il est dans l'air du temps.
D'autant plus rejoint par des intellectuels, parce que Andrieu, qui vient du surréalisme, a rejoint Doriot et le PPF. Ramon Fernandez. Pareillement. Pareillement.
Tout à fait, oui. Il y a toute une frange de l'intelligentsia, entre guillemets, qui bascule et fait dans l'extrême droite
l'extrême droite tout court.
Oui, mais qui est prête à la compromission, même avec les Allemands, quoi, avec les nazis. C'est même pas. Parce qu'il y a extrême droite et extrême droite en France. Même si on prend l'époque. Prenons la ROC. Prenons le PS, ce qui deviendra le Parti Social Français, et les Croix de Feu. Mais la Roque, il est déporté.
Déporté, la Roque.
Il est déporté, la Roque, parce que la Roque, il refuse la compromission avec les nazis.
Bernanos.
Voilà. Il y a droite et droite. Il y a une droite qui a un certain sens de l'honneur et qui a un certain sens de l'humain. Chez Bernanos, c'est particulièrement net. Les grands cimetières sous la lune, c'est quand même un grand texte, quoi. C'est quand même quelque chose, on ne peut pas l'oublier. Bernanos, c'est le gars qui va voir Franco, qui est d'accord avec Franco, qui revient, qui écrit Les grands cimetières sous la lune. Il a pris position.
C'est pour ça qu'il n'y a pas de reniement à aucun moment chez Céline.
Non, aucun. Voilà. Il n'y a jamais de reniement.
Et qu'on le retrouve après la guerre, avec le nec plus ultra de l'extrême droite, parce qu'il est en contact avec Tixier Vignoncourt, qui est quand même l'avocat de l'OAS.
Et qui est son avocat.
Et oui.
Qui est son avocat, qui sera l'avocat de l'OAS et l'avocat de Pétain.
Et avocat de Pétain. On n'anticipe pas, on va voir par rapport à Pétain. Voilà. Petite parenthèse, quand on se disait en antenne, là, je fais bon mea culpa, etc. Roger Vaillant a proposé de descendre. De descendre Céline. Un jour, j'ai fait une émission avec une dame dont toute la famille a été déportée. Et j'ai dit, Roger Vaillant a proposé de descendre. Elle m'a répondu, il aurait dû. Il aurait dû, effectivement. On va me répondre que Vaillant était stalinien jusqu'en 1956, c'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire, il est quand même d'un certain côté bien déterminé. Petite parenthèse, on revient à ton texte. Là, il y a une dame qui a fait un très beau film, là, où on voit Daniel Cordier. Daniel Cordier, qui vient du monde maurassien.
Caracalla.
Chrétien. Oui, bien sûr. Homosexuel, maurassien d'origine.
Et secrétaire de Jean Moulin.
Voilà, secrétaire de Jean Moulin. Et il raconte, c'est très bien, c'est très très beau. Donc il est tout jeune, il est rentré dans la résistance. Jean Moulin, il a donné une mission, rencontrer Vaillant, parce que Vaillant va reconstituer le réseau de la région de Lyon. Et Vaillant, en bon dandy, arrive à Paris. Ils ont rendez-vous dans un vélo-taxi. Et Vaillant, complètement inconscient, se met à raconter le surréalisme. Il commence à parler de breton, de tout ça. Et l'autre, il connaît rien et qui a peur qu'on l'entende, qu'on panique absolument. Mais c'est absolument prodigieux. Donc je dis ça parce que c'est autre chose que le rabougri atrabilaire de Céline qui en veut la terre entière. Il y a une vie chez Vaillant, même s'il a... Voilà. Bien sûr.
Vaillant est ce qu'il est, mais je crois que Vaillant, il a déjà eu. Moi, je crois que le coup que lui avait collé Breton, bon, on va pas parler de Vaillant plus longtemps,
l'émission va dégénérer. Hein.
Au moment de la fin du grand jeu, là, qu'il ait survécu à ça, c'est même impensable. Bien parce qu'il en a pris plein la gueule pour pas un rond, là. Mais
pour rien, bien sûr, pour rien.
Pour pas grand chose, en tout cas. Pour pas grand chose.
Bon, page 23 de ton. On y va, parce que le temps tourne. Il y a quand même une chose assez rare. Pour aller là et là, c'est comment reconnaître un juif. Hein, et d'après les théories, c'est beaucoup moins connu, hein, de Georges Alexis Montandon, inventeur de l'ethno-racisme. Tu as des précisions là-dessus, sur ce garçon très sympathique.
C'est une entre guillemets, il est dans cette espèce de, dans tous ces soi-disant. Alors il y a les collabos, les antisémites idéologiques, mais lui c'est un antisémite ethnique. Il faut savoir, enfin ethniciste, enfin qui dit on peut les reconnaître et qui fait des études dans cette esprit là. On voit Montandon, Céline le rejoint quelque part. Quand Céline parle de l'hybride, etc., ça, il rejoint un peu ce discours que j'appelle moi hygiéniste, qui est celui de Montandon. Montandon, c'est le gars qui est la caution pseudo-scientifique des grandes expositions comme l'exposition Qu'est-ce qu'un juif qu'on trouve un petit peu partout.
Et
quoi.
Donc le texte de Céline sert de support, il y a des phrases citées.
Oui, bien sûr. Et Céline, d'ailleurs, un des grands, grands regrets de Céline, c'est pas qu'on ait cité ses textes, les phrases de son texte sans lui avoir demandé la permission de les publier, c'est que ses livres ne soient pas en vente dans la librairie de l'exposition. Ça, c'est son grand regret, quoi. C'est quand même significatif.
Toujours.
C'est quand même significatif de bien des choses.
Parenthèse parmi les...
Et il se bat pour que Montandon obtienne un poste. Ce grand scientifique, il écrit à qui veut l'entendre, et notamment à Brinon, encore une fois, Fernand de Brinon, il lui écrit pour essayer d'obtenir pour Montandon un poste à l'Institut des questions juives.
Qu'est-ce qu'il est venu de Montandon, tu sais ou pas
Lui, il a il est parti en
Espagne.
Oui, il s'est barré. Il n'a pas. À vrai dire, je me souviens plus. J'ai cherché ce qu'était devenu mon tendon, mais lui, je me souviens plus exactement ce qu'il est devenu. Mais après, il a plus fait parler lui. C'est pas comme Coston, par exemple, qu'on va retrouver, donc ou bien d'autres d'ailleurs de cette mouvance-là, des idéologues, des plumitifs plutôt, parce que c'est même pas intéressant ce qu'ils écrivent. C'est même sur le plan simplement là, du coup, pour le coup de l'écriture, où il y a plus rien dedans. Quoi. C'est de la propagande, mais Céline, qu'on le veuille ou non, Céline, notamment de l'École des cadavres, ne fait que traduire et répéter les arguments des officines de Rosenberg. Mmh. Ça, j'en suis convaincu.
Dans les fêtes du Front National, et ça c'est une idée que je véhicule depuis très très longtemps, lorsqu'ils vont trouver un ou deux intellectuels ou un ou deux écrivains crédibles, ce sera très mauvais. Parce que là, ils vivent sur un front de commerce. Qu'est-ce qu'on trouve dans leurs fêtes? On trouve Brasillac, Robatet, les Décombres, Céline, en grande place, Maurice Bardèche. Et petite parenthèse, vite fait, Drieux, les gens qui ont des livres du Club Français du Livre, tu vois, le Club Français du Livre, on voit des années 50, années 55, 60, des préfaces de la grande littérature française, très bien faites, très bien littéraires, c'est Maurice Bardèche. Voilà.
Qui est le beau-frère de Brasillac.
Alors, ils sont enterrés, je ne sais pas si tu sais, ils sont enterrés là.
Je ne savais pas.
Tu remontes, on ira peut-être, on a le temps un jour.
C'est pas loin.
C'est à, je ne sais pas, moi, ils sont enterrés là en face de l'autre.
D'accord.
À l'église de Charonne. Voilà.
Dans l'église carrément.
Non,
cimetière de Charonne.
C'est un des seuls cimetières qui touche à une église, et c'est là qu'a été d'ailleurs filmé les tontons flingueurs, tu vois. Donc c'est très cohérent tout ça. On s'écoute un peu de musique et puis on va voir le rapport qu'il y a entre l'air du temps entre Pétain, le programme de Pétain et Céline. Il y a quand même une passerelle qui est certaine.
Complètement.
Find a sweet man like me. When I die, I want you to dress me in straight lace shoes, box back coat and Stetson hat. Put a $20 gold piece on my watch chain, so the boys will know I died standing pat. Thank you.
Libertaire sur Radio Libertaire. Merci Monique. Surf demain, hein. 89.4. Donc, Laurent, pour venir sur la petite parenthèse sur la psychanalyse et est-ce qu'on a fait une psychanalyse de Céline, voilà. On disait hors antenne tout à l'heure que ce sont des problèmes psychanalytiques, parce qu'il y a un Drieux qui vient du surréalisme, qui est ouvertement au PPF. Quand ça tourne mal, et il propose ses services à Staline. C'est-à-dire, il dit, à un moment donné, cette phrase très claire, il dit, ce qui m'a fasciné chez les nazis, ça me fascine aussi de l'autre côté, il est prêt à partir de l'autre côté. Et il a conservé au niveau de ce qu'on appellerait le dandisme, ce que n'est pas Céline, hein, le dandisme de droite, extrême droite comme ça, il a conservé un lien avec Malraux. Et quand tout va mal, il écrit à Malraux pour le rejoindre sur la... C'est en Alsace-Lorraine, c'est
oui,
ça
c'est la brigade
alsace-lorraine. Donc c'est un côté complètement psychanalytique. Là, on est entièrement... Ça, c'est absolument... Bon, faut pas oublier que notre bon libertaire est parti à Simaringen.
Complètement.
Après avoir écrit à Jacques Doriot.
Anarchiste.
Après avoir écrit à Jacques Doriot.
Après
avoir fait la...
Il rejoint Sigmaringen, en fait, hein, parce qu'il commence par partir à Baden-Baden quand il fout le camp le 17 mai.
Il y en a d'autres qui sont partis à Baden-Baden en 68.
Oui. Il commence on le voit refleurir à un moment là-bas, et les Allemands l'envoient, en fait, quelque part en Allemagne centrale, en Allemagne, dans une espèce de colonie plus ou moins agricole, enfin, c'est ce qui fera l'objet de Nord. La trilogie allemande, ce qu'on appelle la trilogie allemande, n'est pas dans l'ordre, parce que il parle d'abord, enfin, Nord est le deuxième tome, et D'un château l'autre le premier de la trilogie allemande. Or, D'un château l'autre, c'est le séjour qu'il fait après à Sigmaringen, où il rejoint effectivement Pétain et ce qui reste du gouvernement pétiniste en exil à la frontière là-bas autrichienne.
Qui soutient les pamphlets de Céline? C'est quand même des gens qui sont Léon Daudet.
Brasillac, Léon Daudet, et c'est les deux plus grands. Il y en a plein, hein, qui le soutiennent à l'époque. Il y a plein de gens qui écrivent sur lui et des choses positives. Mais les deux figures de la droite la plus extrême, oui, qui sont des soutiens fermes et les plus connus surtout, qui sont des soutiens fermes de Céline, c'est Daudet et Brasillac.
Il publie chez De Noël. Qui va se faire flinguer à la.
Oui, tout à fait.
Hein, pour un collabo de première. Tout à l'heure, on a vu qu'il était absolument dans l'air du temps au niveau de ce qu'on appelle l'antisémitisme, mais il est aussi très proche du programme de Pétain, tu le dis là.
Ah oui, il est complètement proche du programme de Pétain, j'irais même encore plus loin, parce qu'il est proche des idées de la Révolution nationale de Pétain, c'est vrai, mais il est encore plus proche, et ça il faut quand même bien le dire, du programme tout simplement d'Hitler. Je veux dire, le programme de Louis Ferdinand Céline, tel qu'il l'expose dans Les Beaux Draps, page 134, eh bien, c'est tout simplement un programme qui est très très proche de celui d'Hitler, de celui qu'Hitler a mis en place à partir de 33 en Allemagne. Je veux dire, je nationalise les banques, les mines, les chemins de fer, les assurances, l'industrie, les grands magasins, je colcosifie l'agriculture à partir de tant d'hectares, les lignes de navigation, je trouve du boulot pour tout le monde, et ceux qui veulent pas travailler, je les fous en prison. Et s'ils sont malades, je les soigne.
C'est du Jean-François Copé, ça, non?
Aussi.
Pardon.
Par contre, il y a une très belle phrase que tu as été chercher chez Michel Boulan, qui est un peu plus compliquée. Il dit le pétinisme et ses prolongements ultérieurs, poujadistes et néo-poujadistes, ne sont toujours que des polices au service de boutiquiers à l'armée. C'est chiant, mais on peut s'en tirer. Par contre, l'antisémitisme nazi était une toute autre affaire, le simulacre d'une révolution anticapitaliste. Par contre, là, on pourrait donner ça sur le Front National. Hein, greffé par le capitalisme lui-même sur une agitation sociale réellement révolutionnaire, non une chasse aux pauvres, mais un miroir aux alouettes et un massacre de boucs émissaires.
Et ce sont la différence entre pétinisme et nazisme, c'est que nazisme, comme le fascisme italien d'ailleurs, et d'une certaine manière le franquisme, ce sont des mouvements de masse. Il y a un soutien populaire derrière, un vrai soutien populaire. Les Allemands soutiennent Hitler, qu'on le veuille ou non. C'est pas le cas en France. En France, on a une toute petite frange de collabos et de soutien à Pétain, au régime de la Révolution nationale, mais on a une énorme zone grise de gens qui se prononceront pas, qui applaudiront Pétain en juin 44, enfin en mai 44, et qui applaudiront De Gaulle en août 44.
N'empêche Patrick, avec ses trois pamphlets, il a quand même un lectorat assez costaud.
Ah oui, c'est étonnant, c'est impressionnant.
Je sais pas si tu as aussi impressionnant. Les chiffres, c'est pas oui, du tout.
C'est pas moi qui les ai inventés. C'est simplement les éditions de Noël qui ont donné ces chiffres après la guerre. Faudrait que je retrouve un petit peu là-dedans.
Mais c'est assez impressionnant, oui, effectivement.
Les Bagatelles pour un massacre pendant la guerre, c'est 86 000 exemplaires. C'est pas n'importe quoi quand même. Hein. Je crois que les Baudrins, ça doit être 44 000 exemplaires. Et le deuxième, l'École des cadavres, qui est de très loin le plus faible, et un peu moins important que ça, c'est dans les 30 000 exemplaires, je crois.
Bon, c'est pas grave.
Mais 86 000 exemplaires pour Bagatelle pour un massacre, c'est en quoi ? En 6 ans d'exploitation, dont 2 d'interdiction à la vente. C'est quand même des chiffres effectivement un peu
impressionnants. Il faudrait comparer avec des romans de la même époque, par exemple. Enfin, tu vois. Un roman populaire de la même époque, oui. Si tu veux, voilà.
J'avoue que je n'ai pas cherché.
Voir ce que ça donne.
J'ai surtout été sidéré par ces chiffres qui sont des chiffres qui ont été donnés.
Oui, mais comme tu disais, c'est dans l'air oui. du temps. Hein, je veux dire, c'est du Zemmour aujourd'hui, peut-être. Hein,
c'est du Zemmour aujourd'hui, ouais. Oui, tout à fait. Oui, c'est dans cet esprit-là, à peu près, oui. Et quant à Bounan, dont on parlait tout à l'heure, L'art de Céline et son temps, hein, le petit livre en question, eh bien, ce fameux Pierre Monnier, dont je parlais tout à l'heure, qui est allé voir Céline en 48 à Cursor, là-haut, au Danemark, qui a réédité, qui a été le premier à rééditer les livres de Céline juste après la guerre. Eh bien, un Bounan, par exemple, il le traite de tête molle. C'est une tête molle. Qui n'a rien compris au film parce que de toute façon il n'a pas vécu la période. Et donc il ne peut pas comprendre la profondeur des textes de Céline. Ça fait partie des arguments des pro-Céline, ça aussi.
Ça va être idéologique d'ailleurs. Ça va être la dernière partie de l'émission.
Ah bon ?
Voilà.
Ok.
Ah Monique.
Thank you.
Merci Monique, on a retrouvé les chiffres, là, c'est quelque chose là.
86 642 pour Bagatelle pour un massacre, 38 281 pour l'école des cadavres et 44 035 pour les beaux draps, statistiques publiées par les éditions de Noël en 47.
Alors, tu m'as fait un immense plaisir en mettant un exergue de mon ami Jimmy Gladiator et l'équipe de la Crécelle Noire que j'ai signé moi à l'époque, je tiens à te le dire, en 79. Tu vois, nous rabattrons l'infernal caquet de ceux qui s'enferrent encore dans des aberrations du genre un tel fascisme notoire ou chrétien ou stalinien ou programme commun, c'était pour les surréalistes qui avaient adhéré au Parti Socialiste, est un révolutionnaire dans l'écriture ou dans l'art ou dans le cinéma. Quelle pitié qu'une révolution dans, merde à l'écriture, vive la poésie, vive la révolution, vive l'anarchie. Ça a la gueule.
Mmh, tout à fait, c'est pour ça que c'est là d'ailleurs.
Oui, ça a la gueule. Ça. Bon, c'est Jimmy Gladiator, effectivement, là, c'est clair. Voilà. Que pour un libertaire, eh bien, pardon, Céline n'est pas sauvable.
Non, mais Céline
n'est
pas
sauvable. Non, mais il faut appeler les choses comme elles sont. Alors, dernière partie de l'émission, parce que le temps tourne, comment des gens peuvent le sauver ? Et en particulier, j'ai trouvé des noms, Solaire, Gide, Le Coin.
Le coin.
Comment un type comme Le Coin, Dominique Deroux et Ragon, Michel Ragon, c'est quand même comment
Dominique
des gens.
Deroux, c'est pas étonnant, Dominique Deroux.
Dominique Deroux, c'est pas étonnant. Dominique Deroux, je suis pas étonné par le fait que Dominique Deroux Dominique Deroux est un personnage curieux. C'est plutôt un aventurier qu'autre chose, d'ailleurs. C'est pas vraiment un idéologue de droite, je crois. On peut pas le mettre tout à fait dans le même plan que les hussards, par exemple.
Ça a été un compagnon de route, je pense, quand même. Hein.
Peut-être.
Bon. Le Coin, c'est beaucoup plus intéressant. Plus énigmatique.
Eragon, oui, c'est beaucoup plus étonnant. Parce que Le Coin et Eragon sont tous les deux. Le Coin, on va dire, c'est une figure emblématique de l'anarchie, l'anarchisme. Et Eragon, c'est quand même. C'est un compagnon de route, lui aussi, mais de Cobra. C'est un compagnon de route des gens de Cobra, c'est un compagnon de route des surréalistes révolutionnaires, de tous ces gens-là. C'est.
Alors, comment
c'est étonnant que.
Alors,
c'est
vas-y.
Un populiste aussi, un romancier populiste.
C'est là que ça arrive. C'est peut-être là que ça arrive. Ouais.
Alors, peut-être, mais il faut savoir que si Le Coin
peut-être rappeler qui est Louis Le Coin, pacifiste. Peut-être que le mot est lâché, là. Le mot, il a peut-être lâché, là.
Il y a un mot incontestablement qui est lâché, là. Oui.
On est arrivé,
effectivement à un truc. Il y a eu beaucoup d'anarches pacifistes qui ont eu des positions quand même un peu louches.
Très dangereux, oui, bien sûr.
Il y a eu des ralliements à Pétain.
Bien sûr. Donc clair. Ça, c'est le livre dont j'ai perdu le titre, qui je vais c'est l'édition Libertaire peut-être, qui traite de ce qu'a été le mouvement anarchiste pendant la guerre. C'est peut-être pas très encourageant quand on le lit. Alors, une des excuses, entre guillemets, une des explications, c'est que tout le monde a été épuisé pendant la guerre d'Espagne, mais c'est peut-être pas suffisant. Il y a peut-être aussi la structure du mouvement anarchiste, c'est-à-dire des individualistes commerçants, qui se sont effectivement ralliés à Pétain, voilà. Mais est-ce que c'est suffisant comme explication ? Je n'en sais rien. Voilà. Pour justifier le pacifisme dans l'air du temps. Hein.
Oui. Moi, je pense quand même que... non, parce que je ne veux pas rentrer non plus dans le débat, justement, que ce que tu disais, les anarchistes artisans, donc plus sensibles à ce genre de trucs. Non, je veux pas admettre ça, parce que c'est nier toute une spécificité de l'anarchisme révolutionnaire, notamment celui qu'on a vu en Espagne, à l'œuvre. Et ça, non, je ne rentre pas dans ce débat-là. Le coin, c'est une grande figure de l'insoumission, c'est une grande figure de l'anarchisme et du pacifisme. Je crois que c'est autour du pacifisme qu'il faut chercher ce ralliement, que ce soit à Pétain, que ce soit à la haine de la guerre. Les surréalistes le font un peu aussi, hein, autour de Gary Davis, par exemple, après la guerre. Il y a quelque chose qui est dans cet ordre-là. Ça ne dure pas longtemps, mais il y a cette tentation-là. Au moment où on pense que, avec la bombe atomique, il n'y en a peut-être plus pour très longtemps.
On va pas approfondir, mais c'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. T'as pas un pays occupé, t'as pas un choix d'être, etc.
Oui, là, on en a plus non plus quand Le Coin prend le soutien, écrit. Quand
après
Le Coin
guerre.
Et Ragon écrivent à Céline, c'est après la guerre. Et Céline, on sait pour Céline.
Mais Patrick, il sait parfaitement ce qu'a été Céline. C'est quelqu'un qui a vécu comme témoin le procès Brasillach. Alors moi, je sais pas, on peut pas d'un côté condamner Brasillach et de l'autre côté sauver Céline, c'est pas possible. Sous prétexte que Céline serait, c'est un problème d'un type comme Solaire, sous prétexte que Céline serait un écrivain, disons, grand écrivain, on le sauve et on et on sauve pas Brasillac parce qu'il est beaucoup plus médiocre.
C'est vrai que c'est incompréhensible parce que pour moi ce qu'on fait avec les pamphlets à l'heure actuelle, c'est de la dissimulation de preuves. C'est de la dissimulation de preuves. C'est on met les saletés sous le tapis et on remet le tapis dessus pour qu'on voit plus. Et Céline, grand écrivain, eh ben les pamphlets, oui, mais les pamphlets, d'abord personne les a lus et puis ils sont introuvables et puis personne.
Œuvre de jeunesse,
voilà, dit-on. Etc. Donc on n'en parle pas, c'est surtout pas. Mais Le Coin et Ragon, quand il lui envoie le message de soutien au Danemark, on est dans la fin des années 40 ou le tout début des années 50, plutôt la fin des années 40 d'ailleurs, eux, ils ont eu ces textes-là entre les mains, ils savent ce qu'il y a dedans, ils sont encore disponibles, ils sont encore dans toutes les bibliothèques, dans les maisons, ces bouquins-là, puisqu'il y en a eu 86 000 de vendus quand même, on les trouve, ces livres, ils sont pas... Donc c'est assez incompréhensible, effectivement, c'est assez difficile à comprendre.
Et c'est aussi difficile à comprendre que les messages que j'ai reçus, moi... lorsque le sujet a été marqué en ligne, quoi. C'est voilà.
Je crois que tu l'as expliqué tout à l'heure en parlant du voyage, où finalement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont arrêtés sur le voyage, peut-être sur mort à crédit. Oui. Hein, la plupart des gens.
C'est sans doute ça.
Voilà. Et quand tu relis, j'ai relu une partie de temps en temps. Ça m'arrive de relire une partie du voyage. Il y a des pages antimilitaristes qui sont d'une propreté inouïe. Alors si on s'arrête là, oui, si tu
exactement.
Veux, c'est pour ça que moi j'ai eu la même chose quand j'ai découvert Céline. J'avais à peine 20 ans. Je veux dire, tu t'arrêtes à ça. Et ben tu te dis c'est plutôt pas mal, quoi. Et simplement pour faire une petite parenthèse, quand tu prenais la trilogie allemande que j'ai lue, moi j'ai trouvé ça c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Enfin, moi j'ai. Alors peut-être que je les ai lus beaucoup plus tard et peut-être que j'avais en tête si tu veux, ce qu'était véritablement Céline, chose que je n'avais pas quand j'ai lu Le Voyage ou Mort à crédit. Mais moi j'ai pas trouvé bon. On retrouve un Céline qui est complètement rabougri.
Il est rabougri, mais il y a quand même une écriture.
On va pas défendre l'écriture.
Et il y a des scènes qui sont des scènes d'anthologie. Je pense à deux scènes précisément, au moins. Hein. Tu me diras, sur la trilogie, ça fait pas beaucoup. Mais je pense à la fameuse scène où les dignitaires d'un château l'autre, où les dignitaires de Sigmaringen vont à l'enterrement d'un des leurs, Bichlum, je crois, ou quelque chose comme ça, dans un train. Et alors ils se gèlent, ils caillent parce que c'est l'hiver, il fait froid, il y a des bombardements partout et tout. Et ils trouvent des tulles. Conservés de décor à je ne sais quel spectacle sous les banquettes du train. Et alors ils ont tellement froid qu'ils s'en emberlificotent et tout. Imaginez la scène, c'est grand guignolesque, quoi. C'est dignitaire décati d'un régime qui n'existe plus et qui sont là.
Ouais.
Oh, oui, c'est ça, à la limite. Ou alors la scène bruegelienne, cette fois-ci, qu'on trouve dans Nord, après un bombardement de train, il y a une scène qui est littéralement, elle m'a sauté aux yeux comme une scène de Bruegel, mais l'image dans mes yeux.
Quoi. Tu finis ton essai par la trahison des clercs, c'est ça, c'est-à-dire que comment quelqu'un qui avait, on peut même dire ça, qui avait ça, le langage à disposition, a fini comme ça, et c'est la trahison des clercs, c'est qu'il a une responsabilité politique, politique.
Ah oui, pour moi, mais c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, ça, que c'est un crime politique. C'est ses soutiens qui disent ça, c'est Dominique de Roux qui dit c'est un crime politique. Ces livres. Dominique de Roux, le type qui fait les cahiers de l'herbe, Céline, quoi. Et c'est lui qui va dire. Qui dit ah ben non, ça, c'est quand même, on peut pas lui pardonner ça. C'est un crime politique. C'est extraordinaire. Mais j'ai repris effectivement ce que disait le procureur au procès de Brasillac. Il dit vous êtes un clerc qui a trahi. Vous, le clerc qui avez trahi à propos de Brasillac. Mais je pense qu'on peut dire exactement la même chose. Exactement la même chose de Céline. C'est un clerc qui a trahi, oui. Oui, complètement.
Mais la trahison, ce qu'on appelle la trahison des clercs, il faut dire que c'est Julien Benda qui essaie voilà, c'est une expression.
Encore un autre problème.
Mais on disait hors antenne, là, et les gens qui ont des parcours extraordinaires, de Garaudy, Garaudy qui commence, qui est communiste, le même numéro 2 du Parti communiste, c'est possible, qui passe par le...
Enfin, c'est un figure, il est au comité central.
Qui passe par... il est musulman, il finit à l'extrême droite. Donc on parle de la psychanalyse, là, on nage complètement.
Il était vieux aussi.
Il était vieux. Il n'a pas toujours été vieux.
Est-ce que ce n'est pas la démence qui l'a fait passer...
Il n'a pas toujours été vieux.
Non, mais à l'islam, quand il repart à l'islam et puis à l'extrême droite, c'est un type... Enfin bon, je ne veux pas expliquer ça par la sénilité.
Racinié, Forisson. Forisson, c'est quelqu'un... Un prof de lettres qui écrit sur l'autre et Amont. L'autre et Amont, c'est quand même une orientation qui écrit sur un mot. Et qui se retrouve là. Voilà. C'est quand même des démarches au niveau de la psychanalyse. Voilà. Tout à l'heure, on cherchait un nom. On a réussi à le trouver. Le nom, Marc-Édouard Nabeu. Ouais. Celui qui se réclame de Céline et qui joue Céline avec toutes les composantes. Avec le martyrat, avec l'antisémitisme, avec tout ça.
Au moins le génie.
Voilà. Il n'y a rien. Voilà. Donc c'est quand même dans l'air du temps. Et si, tout à l'heure, je disais que si cette extrême droite, la nôtre actuellement, là, trouvait 2-3 écrivains ou 2-3 intellectuels comme ça, ce serait très méchant.
Oui, tout à fait.
Très méchant. S'ils actualisaient leur fonds de commerce, ce Renaud Camus, c'est fini, ça. C'est, voilà. Il y a Massenet, c'est fini aussi.
C'était une époque.
Ouais. Voilà, c'est une époque. Voilà.
Et puis, je pense. Ah aussi, ça, c'est pas possible, ces noms.
Ah bah il y en a un qui vient de mourir là, qui aurait pu aussi tourner dans cette mouvance-là. L'auteur de Babylon Babies.
Dantec, ouais.
Dantec.
Voilà. Oui, alors lui, Dantec, lui, il était pas mal, ouais.
Oui, mais il aurait pu aussi. Lui, il aurait pu faire partie des gens basculant dans le mauvais camp.
Ah bah je pense qu'il avait basculé dans le mauvais camp, oui.
Ouais, sauf que je pense qu'il était cramé.
Il était cramé, ouais. Non, je pensais à un autre auteur beaucoup plus connu qui a fait beaucoup de pièces de théâtre, qui était fasciné par les athlètes.
Monterland.
Ah oui. Ouais. Je pensais à lui, ouais.
Bah Monterland, c'est parenthèse, il a lui ouvertement, oui. On trouve les textes. L'apologie de la croix gammée.
Tout à fait.
Donc on passe par un phénomène d'esthétisme, etc.
Exactement.
Bien sûr. Mais on sait par exemple que on revient à ce thème de la psychanalyse, que quelqu'un comme Georges Bataille, moi je sais de première main, était fasciné par les uniformes nazis. Voilà, donc on est dans le politique, mais on est aussi dans la psychanalyse, totalement.
On est dans la profondeur de l'humain.
Alors, effectivement, tout à l'heure, on posait le problème de Céline, atrabilaire de première, une amertume pas possible. Voilà, on est quand même des composantes qui sont des composantes, une paranoïa totale.
Voilà, complètement.
Complètement une paranoïa.
Mais tu disais tout à l'heure que la trahison d'Éclair, oui. Justement, Céline a écrit « La défaite en tout, c'est d'oublier. » Trois points. « La défaite en tout, c'est d'oublier. » Et moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie les pamphlets antisémites de Céline. Parce que sinon, ça serait une défaite de notre pensée. Ouais. C'est pour ça que j'ai écrit ce texte.
Non, on va conclure. Il faudrait le publier. Il faudrait arriver à le publier avec une préface racontant les réactions libertaires.
Aux éditions libertariennes.
Ben, il faudrait y penser. Alors, je vais une dernière provocation. Moi, je me promène dans la vie avec une phrase de Céline, que je trouve très bien. Alors, on va conclure là-dessus, après, Monique envoie le générique. Il dit, tout sera changé le jour où le petit peuple aura cessé de s'écouter vieillir.
Ah, c'est pas mal.
Ça, c'est pas mal.
C'est pas mal
Mais
du tout.
Moi, j'en ai une autre que je me promène avec. L'amour, c'est l'infini à la portée des caniches.
Voilà, très bien. Bah, c'était un plaisir, Patrick. Patrick, cette émission. Voilà. Merci, Monique.
J'aimais l'odeur du chien, j'aimais l'océan sur mes talons, et toi je t'aimais bien. La maison sur le port et l'odeur du chien qui se couche et s'endort sur ton vieux pull. Devant moi, j'avais peur de rien. Il faisait bon et chaud sous ton toit, les gouttes tombaient plus loin, la pluie tombait dehors, mais je ne sentais rien que l'odeur de ton corps dans ton vieux pull marin. J'aimais beaucoup le son de ta voix, le doux de tes mains. J'aimais rire et pleurer avec toi, je crois que je n'oublie rien. Mais j'aimais d'abord le doux de tes mains et le vent qui mord sous ton vieux pull marin. Une maison, un amour, un chien. J'aimais l'océan sur mes talons, et toi je t'aimais bien. La maison sur le port, mon amour, mon chien. Et je m'enroule encore dans ton vieux pull marin. J'aimais, 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 j'aimais bien. J'avais, 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 j'avais rien. J'irai, 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 j'irai loin. J'irai, 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 j'irai bien.
Drôle.
Je suis la femme qui passe et qui attend les hommes qui dorment dans un palace, place Vendôme. Je suis belle comme le jour, c'est comme au cinéma. Je suis la femme qui casse sa vie auprès des hommes, une ombre dans un palace, place Vendôme. Lorsque j'étais enfant, je rêvais de diamants et de prince charmant. Là, je ne suis qu'une trace dans le parfum des hommes, un souffle qui s'efface, place Vendôme. À leur table et je dors dans leurs draps. Moi, je voulais leurs bras. Là, et le vent froid me glace, place Vendôme. Je vais me reposer, je vais dormir un peu, car ce soir je serai là. Si un jour je me lasse, comme le font les mots, je filerai dans l'espace, loin de la place Vendôme. Et je dirai au ciel, je crois que j'ai rêvé. Moi je voulais aimer. Et Jean-Paul III. malgré ma gourmandise, je garde ma chemise, je dissimule derrière mon parfum la prudence d'un vieil indien. Faudra qu'on fraternise et que ça s'éternise, pour que du bout du cœur, du bout des doigts, j'apprenne ce que je ne sais pas. Rendez-vous à Venise ou bien dans ma remise, avec nos dents de loup, nos yeux d'enfant et notre amour tout simplement.
Je me souviendrai du silence.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir.
Bonjour à tous, donc Nicolas au micro de Trou Noir en compagnie de Serge à mes côtés. On connaît tous l'expression « de quel bois nous sommes faits » ou « de quel bois est-il fait » pour savoir, pour jauger un peu une personne, on va voir de quel bois il est fait. Cette expression, les membres d'une association qui s'appelle « Fêtes et Racines » l'ont un peu repris à leur compte pour en faire en quelque sorte leur devise. Donc aujourd'hui dans Trou Noir, nous allons parler de la forêt, des forêts. Alors la forêt, les forêts discrètes occupantes de nos territoires se sont rappelées à notre attention à la lumière des nombreux et dévastateurs incendies de l'été 2022. La forêt, ça semble aller de soi, c'est le milieu qui incarne le plus l'idée de nature, de sauvage. Pour beaucoup, la forêt pousse à sa guise et c'est avant tout un terrain de loisirs, de promenade, de liberté. En effet, les espaces forestiers semblent bien être des lieux où on peut aller et venir sans en demander l'autorisation. Et pourtant, en France, la forêt occupe un tiers du territoire national, mais sait-on que 75%, soit les trois quarts de ces forêts, appartiennent à des propriétaires privés, le reste étant constitué de forêts domaniales ou communales. Donc, domaines publics ou privés, que nous en fassions un usage récréatif ou professionnel, les forêts occupent un large espace dans nos imaginaires. Ce sont pourtant des milieux où on exploite la ressource, le bois, de bien des manières, artisanales ou industrielles. Au début du printemps dernier, l'appel des bourgeons, sans doute, m'incitait à aller faire un petit tour en Corrèze, du côté d'Argentat-sur-Dordogne, pas très loin de la Creuse qui est chère au cœur de Serge, à la rencontre des animateurs d'une association qui s'appelle donc Fêtes et Racines, fêtes comme le fête d'un arbre, même si ça n'empêche pas de faire la fête. Donc Fêtes et Racines, les racines ça va de soi, et dont le projet avait retenu mon attention. Alors l'association Fêtes et Racines est née en juillet 2018 à l'initiative d'habitantes et d'habitants de la vallée de la Dordogne, soucieux de l'environnement boisé et scandalisés par la destruction et l'exploitation massive de leurs forêts corréziennes, coupes rases, monocultures. Donc voilà, nous allons partir à leur rencontre. Ils m'ont accueilli dans une maison fort accueillante et puis aussi un peu aussi en forêt. Donc on met nos petits